Chapitre 18. Lieutenant Lovenstein. A woman is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets into hot water. Eleanor Roosevelt. Boston, 2010. Avec sa structure en double hélice qui brillait dans la nuit, l'immeuble de verre de l'Institut du cerveau et de la mémoire ressemblait à une gigantesque molécule d'ADN. Les portes vitrées du bâtiment s'ouvrirent dans un souffle puissant. Emma s'avança vers l'accueil avec assurance. « Lieutenant Lovenstein, police de Boston », annonça-t-elle en dégainant sa carte. « Que puis-je pour vous, lieutenant ?» Emma demanda à s'entretenir avec Joyce Wilkinson. « Je vais prévenir le professeur », répondit l'hôtesse en décrochant son téléphone. « Je vous laisse patienter. » Un peu nerveuse, Emma ouvrit la fermeture éclair de son blouson et fit quelques pas dans le hall, dont les murs opalescents et laiteux donnaient l'impression de déambuler dans un vaisseau spatial. De chaque côté des parois, des panneaux lumineux mettaient en scène l'histoire récente de l'Institut, tout entier dédié à l'étude de l'organe le plus mystérieux et fascinant qui soit, le cerveau humain. Le projet de l'établissement de neurosciences était clair: regrouper certains des plus grands chercheurs de la planète pour faire avancer la connaissance des maladies du système nerveux, Alzheimer, schizophrénie, maladie de Parkinson. Lieutenant, si vous voulez bien me suivre? Emma emboîta le pas à la réceptionniste. Un ascenseur silencieux en forme de capsule vitrée les conduisit jusqu'au dernier étage de la tour. Au bout d'un couloir de verre se trouvait un espace tout en transparence, le lieu de travail de Joyce Wilkinson. La scientifique leva les yeux de son ordinateur portable lorsqu'Emma franchit la porte de son bureau. « Entrez donc, lieutenant, je vous en prie », dit-elle en désignant de la main le siège devant elle. Comme les photos le laissaient deviner, Joyce Wilkinson était d'origine indienne. Sa peau mate et ses cheveux de jais coupés courts contrastaient avec le regard clair et rieur qui luisait derrière ses fines lunettes à monture translucide. Emma lui montra sa carte sans ciguer.
« Je vous remercie de m'accorder quelques minutes de votre temps, professeur. »
Joyce hocha la tête. Sous sa blouse ouverte, elle était vêtue simplement d'un pantalon de toile kaki et d'un pull à grosse maille qui lui donnait l'allure presque enfantine d'un garçon manqué. Son visage carré et juvénile attirait la sympathie. Avant de s'asseoir, Emma jeta un regard circulaire à la pièce. Les murs étaient tapissés d'écrans plats sur lesquels s'étalaient des dizaines de plans de coupe de cerveaux humains.
« On dirait l'étoile d'Andy Warhol »,
remarqua-t-elle en faisant référence aux couleurs vives des marqueurs d'activité cérébrale qui rendaient les clichés vivants, presque gais. Joyce expliqua.
Il s'agit d'une étude médicale réalisée en Amérique du Sud sur plusieurs milliers de personnes d'une famille élargie dont les membres ont une prédisposition héréditaire à développer la maladie d'Alzheimer. Et quelles sont ses conclusions? Elles montrent que les signes précurseurs de la maladie apparaissent plus de 20 ans avant les premiers symptômes.
Emma approcha très près d'un des clichés. Elle eut une pensée pour son père, en phase terminale de la maladie, hospitalisé dans une institution du New Hampshire. Comme en écho à ses réflexions, Joyce lui confia.
« Mon père adoptif a développé une forme précoce de la maladie. Ça a bousillé mon enfance, mais ça a aussi déterminé ma vocation. » La flic poursuivit l'échange. « Le cerveau, tout se passe là-dedans, n'est-ce pas ? » fit-elle en désignant son crâne. « Des signaux électriques, des connexions entre groupes de neurones ?»«
Oui, » répondit Joyce en souriant.
Le cerveau gouverne nos décisions et détermine nos comportements et nos jugements. Il établit la conscience que nous avons de notre entourage et de nous-mêmes et va jusqu'à régler notre façon de tomber amoureux.
Elle avait une voix chaude, légèrement rauque, un charme puissant. Le médecin hocha la tête en se balançant dans son fauteuil.
C'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas pour discuter de ça que vous êtes venu me voir, n'est-ce pas, lieutenant?
En effet. Je suis ici car la BPD mène actuellement une investigation dans laquelle apparaît le nom de Kate Shapiro.
Joyce marqua une vraie surprise.
Kate? Que lui reprochez-vous?
Sans doute rien de grave, assura Emma. Kate n'est pas la personne principale visée par notre enquête. Je ne peux vous en dire plus pour l'instant, mais je vous remercie pour votre collaboration.
Comment puis-je vous aider?
En répondant à quelques questions. Quand avez-vous rencontré Kate pour la première fois? Eh bien, c'était en... En 1993, affirma-t-elle en comptant sur ses doigts. Nous étions toutes les deux élèves en première année du JMP. Le JMP ? Le Joint Medical Program de l'Université de Berkeley. Il s'agit d'un cursus médical de 5 ans parmi les plus sélectifs du pays. 3 ans de master en sciences sur le campus, suivi de 2 ans de stage dans différents hôpitaux de Californie. À l'université, vous étiez sa meilleure amie, n'est-ce pas ? Joyce plissa les yeux en silence, laissant les souvenirs remonter lentement du passé. Oui, c'est certain. Nous avons partagé la même chambre pendant 3 ans à Berkeley, avant de louer un petit appartement à San Francisco pendant 2 ans. Ensuite, nous avons déménagé à Baltimore pour y débuter notre résidana. Comment était Kate à l'époque ? La neurologue haussa les épaules. Comme aujourd'hui, j'imagine. Belle, ambitieuse, intelligente, dotée d'une volonté de fer. Vraiment très douée. Je n'ai jamais vu quelqu'un capable de travailler aussi vite et aussi longtemps. Je me souviens qu'elle dormait très peu et avait une capacité de concentration incroyable. C'était sans doute la meilleure élève de notre promotion. D'où venait-elle ? D'un petit lycée catholique du Maine dont j'ai oublié le nom. Avant Kate, jamais personne de cet établissement n'avait été admis au JMP. Je me souviens que son score au test d'intégration de l'école avait été le plus élevé depuis la mise en place de l'examen. Et je suis prête à parier que personne ne l'a battu aujourd'hui. Comment êtes-vous devenue amie ? Joyce écarta les mains. J'imagine que la maladie de nos parents nous a rapprochés. Kate avait perdu sa mère des suites d'une sclérose en plaques. Nous étions toutes les deux décidées à consacrer notre vie à lutter contre les maladies neurodégénératives. Emma fronça les sourcils. C'est bien ce que vous avez fait, vous, mais pas Kate. Elle est devenue chirurgienne cardiaque. Oui, elle a changé brutalement de voie en 1999, au milieu de notre deuxième année à Baltimore. Vous voulez dire qu'elle a arrêté son résidanat de neurologie en deuxième année pour se réorienter en chirurgie ? C'est ça. Comme c'était une très bonne élève, l'hôpital universitaire John Hopkins a accepté de la transférer en cours d'année pour intégrer le résidanat de chirurgie. Quelle était la raison de ce changement ? Aujourd'hui encore, je serais incapable de vous le dire. C'est d'ailleurs à partir de cette date que nos chemins ont pris des directions différentes et que nos relations se sont distendues. Emma insista. En réfléchissant, vous ne voyez vraiment pas ce qui a pu déclencher cette décision ? C'était il y a plus de 10 ans. Nous n'avions que 24 ans à l'époque. Et puis, en médecine, il n'est pas rare que les étudiants changent d'orientation en cours de route. Tout de même, il s'agissait ici de l'engagement d'une vie. Vous disiez que Kate était déterminée à faire une carrière en neurologie. Je sais bien, acta Joyce. Quelque chose d'important s'est manifestement passé dans sa vie cette année-là, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Emma s'empara d'un stylo qui traînait sur le bureau et marqua la date 1999 sur son avant-bras, suivie de la question « Quel événement dans la vie de Kate ?»« Vous voulez un papier, lieutenant ?» Emma déclina la proposition et poursuivit son interrogatoire. Kate sortait avec des types à l'époque. Elle dégageait une sorte de beauté magnétique qui faisait qu'elle était très courtisée. De façon plus prosaïque, tous les mecs bavaient devant elle et rêvaient de la mettre dans leur lit. « Vous ne répondez pas à ma question, » insista Emma. « Qui fréquentait-elle ? » Gênée, Joyce essayait apparemment de protéger l'intimité de son ancienne amie. « C'est du ressort de sa vie privée, non ?» Pour lever ses scrupules, Emma précisa sa question. « Elle sortait avec Nick Fitch, c'est ça ?» Joyce laissa échapper un imperceptible soupir de soulagement. Satisfaite de ne pas avoir trahi le secret de Kate, elle s'autorisa à la confidence. C'est vrai, Nick était le grand amour de Kate. Depuis quand sortaient-ils ensemble ? Demanda Emma pour profiter de la brèche. Dès l'âge de 19 ans. Nous étions en deuxième année à Berkeley lorsque Fitch est venu donner une conférence sur le campus. Kate l'avait déjà rencontré auparavant. Elle est donc allée lui parler après le séminaire et ils ont commencé à se fréquenter. Leur histoire d'amour a commencé en 1994. Fitch était déjà une légende à l'époque. Il devait avoir 25 ou 26 ans et avait gagné beaucoup d'argent dans l'industrie du jeu vidéo. À l'époque, dans le milieu du logiciel libre, Unicorn était déjà dans toutes les bouches. Qui était au courant de leur relation ? Très peu de monde. Personne même, à mon avis, à part la mère de Nick et moi. Fitch a toujours été très discret sur sa vie personnelle, un vrai parano. Vous ne trouverez aucune photo ni aucun film où on les voit ensemble. Nick y veillait. D'où vient cette parano? Je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est quelque chose de très ancré en lui. Emma marqua une courte pause. Cette parano cadrait mal avec le film qu'elle avait réalisé le matin même sur son téléphone. Pourquoi Kate et Nick s'étaient-ils rencontrés dans un pub où n'importe qui aurait pu les voir? Combien de temps a duré leur liaison? Plusieurs années, mais c'était une relation en pointillé. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Vous voyez le genre. Très bien, malheureusement, souffla Emma. Joy sourit puis poursuivit. D'après ce qu'elle me confiait, Kate souffrait beaucoup de l'inconstance de Nick. Elle lui reprochait son manque d'engagement. Un jour, il pouvait se montrer très épris, mais redevenait distant dès le lendemain. Ils ont rompu plusieurs fois, mais ils finissaient toujours par se remettre ensemble. Elle était vraiment accro et aurait fait n'importe quoi pour lui, y compris cette stupide opération de chirurgie esthétique. Emma ressentit un picotement dans le ventre. Elle avait vu juste. C'était en quelle année? De nouveau, Joyce compta sur ses doigts. Pendant l'été 1998, à la fin de notre première année de Residana, quelques mois donc avant que Kate change de spécialité. Pour vous, elle a fait cette opération pour plaire à Fitch. Oui, ça me semble évident. À cette époque, Kate ne comprenait pas pourquoi Nick la repoussait. Elle n'avait plus confiance en elle, cette opération c'était un geste désespéré. Emma changea de sujet. Jusqu'à quand Kate et Nick se sont-ils fréquentés? Joy secoua la tête. Je n'en sais strictement rien. Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes perdus de vue lorsque Kate a changé de filière. On s'envoyait un email de temps à autre, mais c'en était fini des confidences. Après Baltimore, elle est revenue à San Francisco pour terminer son Residana. Puis elle a suivi une formation de chirurgie cardiaque à New York. Il y a 5 ans, elle a conclu sa spécialisation par un clinica en transplantation cardiaque à Boston, et dans la foulée, elle a réussi à obtenir un poste de titulaire au MGH. Emma prit la balle au bond. Vous vous êtes donc retrouvées toutes les deux dans la même ville au même moment? À peu près. J'ai rejoint le Brain Institute il y a 3 ans et demi. J'imagine qu'à votre arrivée ici, vous avez cherché à revoir votre ami. Légèrement mal à l'aise, Joyce attendit quelques secondes avant de répondre. Oui, je l'ai contacté et nous avons pris un verre dans un café de Back Bay. C'était quelques mois après son accouchement. Elle m'a dit qu'elle était très heureuse, très satisfaite de sa vie de famille et très amoureuse de son mari, un prof de philo de Harvard. Vous l'avez cru? Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Vous avez reparlé de Nick? Non, ce n'était pas le moment. Elle venait de se marier et d'avoir un enfant. Je n'allais pas remuer le passé. Vous vous êtes revus par la suite? Je lui ai proposé, mais elle n'a jamais répondu à mes emails ou à mes coups de fil. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Joyce poussa un soupir et le silence retomba dans la pièce. Emma tourna la tête vers la fenêtre. En plissant les yeux, elle distingua la rivière, noire et sombre, qui coulait en contrebas. Très bien. Merci de votre coopération, dit-elle en se levant. Joyce se leva à son tour. Je vous raccompagne, lieutenant. Emma suivit la scientifique dans le couloir, puis dans l'ascenseur. Vous ne pouvez vraiment pas me dire ce que l'on reproche à Kate, insista Joyce en appuyant sur le bouton pour se rendre au rez-de-chaussée. C'est encore trop tôt, je suis désolé. Je vous demanderai également de ne parler à personne de notre entretien. Comme vous voulez. J'espère sincèrement qu'il n'est rien arrivé de grave, mais quoi que Kate ait pu faire, il y a une chose que vous devez bien comprendre. Lorsqu'elle entreprend quelque chose, elle le fait avec intelligence et détermination, et elle va jusqu'au bout. Elle n'a qu'une seule faille, qu'un seul point faible. L'amour? Sans aucun doute. Kate disait elle-même que lorsqu'elle était amoureuse, elle sentait son âme russe se réveiller et qu'elle était capable des plus grands excès. Croyez-moi, ce n'était pas une plaisanterie. Joyce lui tendit sa carte alors qu'elles arrivaient dans le hall de l'Institut. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas, lieutenant. Merci. Une dernière question. Est-ce que Kate aurait été capable de faire quelque chose pour se venger de Nick?
Joyce ouvrit les mains dans un geste d'impuissance. Les deux femmes continuèrent à discuter une bonne demi-heure dans la lumière laiteuse du Brain Institute. Enfin, Emma sortit dans la nuit. Il était tard. La neige avait cessé de tomber, mais un froid polaire figeait le campus. Pas le moindre taxi à l'horizon. Elle marcha jusqu'à la station Kendall MIT et rentra en métro jusqu'à Boston. En poussant la porte de sa chambre d'hôtel, elle découvrit Romuald endormi devant son mur d'écran, la tête posée sur ses bras croisés. Intriguée, elle regarda l'installation informatique en ouvrant de grands yeux. L'adolescent avait transformé la suite en un impressionnant QG de sécurité. Elle quitta la chambre sans bruit et retourna au bar de l'hôtel. À 7 heures de la nuit, l'endroit ne comptait que quelques clients. Elle commanda une nouvelle caipiroska et la sirota en repensant à ce que lui avait raconté Joyce Wilkinson avant qu'elle ne se quitte. La première rencontre de Kate et de Nick.